J'aime beaucoup cette introduction musicale. Merci Benoît d'ailleurs à la technique. Bonjour à vous chers auditeurs de Radio Courtoisie et en particulier les fidèles du Libre Journal de la Liberté de Penser que je retrouve à chaque fois avec plaisir une fois par mois le mercredi entre midi et 13h30. Écoutez, aujourd'hui, j'ai voulu recevoir Marc Hainaut, que les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent bien. Bonjour Marc.
En effet, bonjour, bonjour à tous.
Là, vous êtes derrière le micro, en tout cas.
Oui, c'est très confortable.
Ah, je ne sais pas, on va voir. parce que vous êtes, en plus de vos multiples casquettes de journaliste politique à valeur actuelle, vous êtes aussi écrivain à vos heures perdues. Apparemment, vous en avez, puisque vous avez réussi à sortir un livre que je recommande à tous nos auditeurs de Radio Courtoisie, qui s'appelle « L'ampleur des dégâts ». Et je lis le sous-titre parce qu'il est important.
Et il précise.
Il précise. 2017-2026, donc c'est pas fini. Hein. Le vrai bilan d'une présidence avec une très belle couverture d'ailleurs, d'un Emmanuel Macron un peu en César ou en Napoléon, mais en tout cas devant un champ de ruines qui
absolument
pourrait être la France. Néron,
on pourrait presque dire. Ouais, en effectivement,
ouais. Ouais. Devant des bâtiments en ruine qui, je suppose, symbolisent l'état de la France.
L'Élysée, oui, absolument. Oui, c'était tout le pari de ce livre. Alors, il y a eu énormément de confrères, d'éminents confrères qui ont déjà sorti beaucoup d'ouvrages sur la personnalité d'Emmanuel Macron, sur sa psychologie, sur le côté un petit peu manipulateur, séducteur, sur la personne. Et justement, moi, je me suis dit, j'ai voulu justement aller au-delà de ça parce que Emmanuel Macron, on aime beaucoup le détester, on aime beaucoup détester ses petites phrases, son arrogance, son orgueil, etc. Mais en fait, derrière cet homme, derrière ses qualités et ses défauts, il y a effectivement l'état d'un pays, il y a un bilan, et à un an avant la fin de son deuxième mandat présidentiel, on commence à y voir un petit peu clair, et voilà, c'était essayer de prendre la froideur des chiffres, la réalité du bilan, en faisant justement abstraction de sa personnalité, et le bilan est encore pire, j'ai envie de dire, que la personnalité de notre président.
Alors, aux éditions L'Artilleur, j'ai pas précisé,
absolument,
mais vous aurez tout ce qu'il vous faut sur le site de Radio Courtoisie pour vous procurer ce livre. Alors, effectivement, vous, dans ce livre, vous ne faites pas qu'un bilan non plus politique classique, en tout cas, c'est mon avis, hein. Vous décrivez une présidence qui a été traversée par ce que certains appellent toujours d'ailleurs le paradoxe Macron, un président qui promet la maîtrise, la rationalité, l'efficacité et qui donne pourtant le sentiment d'un pays qui lui échappe. Est-ce que tout est là finalement dans cette ambiguïté, dans ce paradoxe ?
Il y a un immense malentendu effectivement entre Emmanuel Macron et les Français. Il faut relire, si on a envie de se faire un peu de mal, mais en tout cas c'est intéressant, il faut relire le livre qu'avait écrit Emmanuel Macron avant l'élection présidentielle, un petit peu son livre, certains disent son livre programmatique, en réalité évidemment c'était pas un programme mais c'était l'ébauche un petit peu de son projet, et on s'aperçoit que le diagnostic qu'il posait sur la France était pertinent. Il avait compris l'aspiration à davantage de liberté, à moins d'assistanat, à plus de sécurité, à plus de sécurité, donc à moins d'insécurité. Un recentrage au fond de l'État autour des ministères régaliens, et justement de reprendre un petit peu la maxime de Pompidou, il faut arrêter d'emmerder les Français. Et ce qui est terrible, c'est que peut-être que beaucoup ont lu ce livre d'Emmanuel Macron, peut-être que beaucoup ont écouté ses premiers discours, et effectivement il y avait tout pour séduire, peut-être aussi parce qu'il y avait tout, il y avait trop de choses, il y avait déjà trop dans le même temps, mais en réalité les Français attendaient un réformateur, ils ont eu une espèce de moralisateur, et ils attendaient une espèce de général de Gaulle, c'est-à-dire quelqu'un qui a compris que le président de la République s'élevait au-dessus des partis, était hors des logiques partisanes et avait pour mission de rassembler les Français. Les gens attendaient cela chez Emmanuel Macron, et bien en fait cela a été tout l'inverse. Le clivage gauche-droite, il ne l'a pas abrogé, il l'a refondé au sein de son propre parti en favorisant le Rassemblement National et la France Insoumise, qui étaient censés être les deux forces politiques qu'il devait combattre. Et au niveau de son exercice du pouvoir, contrairement au général de Gaulle, Emmanuel Macron, il n'a jamais eu le souci de sa propre légitimité.
Ça, vous revenez beaucoup dessus,
oui,
en fait.
Oui, parce que pour moi, c'est fondamental. Et d'ailleurs, on l'a revu après l'élection présidentielle 2022, ce qui a expliqué le blocage institutionnel. C'est que Emmanuel Macron considère qu'à partir du moment où il a été élu, il l'a été pour 5 ans et sa légitimité ne saurait être remise en cause, quand bien même il n'aurait pas de majorité à l'Assemblée nationale, quand bien même aucun de ces textes ne passerait, quand bien même il serait de plus en plus isolé, pour lui, il y a presque une relation de d'ascendance, en fait. Il est supérieur aux Français parce que les Français l'ont reconnu supérieur, en fait,
adoubé,
si vous voulez.
Quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Il a été adoué pour 5 ans et il a investi une mission presque métaphysique, presque sacrée à ses yeux. Et c'est cela, à mon avis, le fond du malaise.
Non, ce que vous nous disiez, c'est qu'en fait, au départ, Emmanuel Macron, et ça le rend encore peut-être plus coupable, il avait compris les mots de la France, mots MAUX, et ce qu'attendaient les Français.
Oui, et c'est ça qui le rendait dangereux. Très, moi, je, déjà, je, ça, ça, j'ai trouvé important de travailler là-dessus, parce que déjà, moi, j'ai un peu commencé ma carrière journalistique au sens national avec l'élection d'Emmanuel Macron. Donc, j'avais beaucoup suivi en réalité sa montée en puissance, et je dois dire qu'il m'effrayait un petit peu, parce que on voyait bien quel genre d'homme il était. C'était l'homme qui va aux fêtes Joannick, qui va au Puy du Fou pour expliquer que, au fond, les Français ont toujours été un peuple monarchiste, tout en expliquant quelques mois plus tard qu'il n'y a pas de culture française. Parce qu'il y avait déjà une espèce de dualité, une espèce d'en même temps, mais qui était beaucoup trop étendue, et on voyait bien qu'in fine, ça ne pourrait pas tenir. C'était la phrase de Margaret Thatcher: à force de vouloir rouler au milieu de la route, on finit forcément par basculer du côté droite ou du côté gauche. Et ça a été exactement cela, la trajectoire d'Emmanuel Macron.
Donc en fait, ce qui frappe, c'est l'écart entre le récit officiel, celui d'une France modernisée et transformée. En plus, maintenant, là, vous nous parliez de 2017, de sur quoi il a été élu. Aujourd'hui, avec le recul, on a quand même 8 ans de macronerie. Mais j'ai envie de dire, cet écart, il subsiste en fait, malgré la réalité. Il parle, lui, quand on l'écoute, d'une France qui est modernisée, transformée. Et en fait, vous, ce que vous décrivez à travers votre livre, c'est une dette qui explose, des services publics sous tension, des fractures sociales. Est-ce qu'on a vendu aux Français une histoire, finalement, qui ne correspond pas à la réalité? En gros, la macronerie, c'est une réussite racontée ou c'est un vrai échec vécu, en tout cas en tant que tel, par les Français, mais pas du tout par Emmanuel Macron?
Mais c'est exactement cela. On a vu d'ailleurs les macronistes passer une grande partie de la fin du premier quinquennat à faire le tour des plateaux en expliquant, en commençant à défendre ce bilan, et ils y croyaient réellement lorsque j'ai oublié son nom, je ne connais que lui, Gilles Legendre, l'ancien patron des députés LREM à l'Assemblée nationale, va sur un plateau télé pour expliquer qu'en réalité la pensée d'Emmanuel Macron est trop brillante pour qu'on la comprenne.
Ouais.
C'était d'une sincérité.
Il faut s'en souvenir quand même.
Il faut s'en souvenir parce que évidemment vous aviez au même moment 20 millions de Français qui avaient sensiblement l'impression d'être pris pour des cons, mais et en face vous aviez quelqu'un qui était authentiquement convaincu.
Voilà.
Et d'ailleurs la trajectoire de Gilles Legendre a été terrible pour lui, puisque Gilles Legendre, il a fait partie des députés qui ont été balayés lors des élections législatives de 2024, anticipées suite à la dissolution, et c'est ce jour-là que tous ces gens ont un petit peu ouvert les yeux, qu'ils se sont rendus compte que cet homme à qui ils avaient tout donné, enfin certains ont sacrifié leur vie privée, leur mariage, leur bonheur entre guillemets, et ben ils se sont réveillés ce jour-là en s'apercevant qu'en réalité les étiquettes politique ne lui importait pas, l'intérêt de ses propres amis, de ses propres alliés ne lui importait pas, et qu'au fond tout cela c'était la même chose. LREM, Renaissance, UDI, Modem, Horizon, et seul comptait en réalité sa propre trajectoire et sa propre transcendance. Et ça a été cela, l'étendue du malentendu. D'abord les Français l'ont ressenti, et après aujourd'hui on peut dire que même ses propres troupes aujourd'hui le ressentent. On est à un an de la fin du quinquennat, et ce qu'il reste de la Macronie est en train d'essayer de se reconstituer contre Emmanuel Macron, déjà en train d'essayer de faire oublier qu'ils sont rattachés à lui, dans un premier temps, et deuxièmement, d'ici quelques semaines, on entendra, je pense, des discours extrêmement critiques sur le bilan même d'Emmanuel Macron. On entend déjà Édouard Philippe qui commence un petit peu à le faire, et on s'aperçoit qu'en réalité, tout le monde va essayer de faire oublier cette filiation.
Alors, je reçois Marc Hainaut, journaliste politique, notamment à Valeurs Actuelles, mais aussi patron d'émission sur Radio Courtoisie, pour votre livre, pour l'ampleur des dégâts, 2017-2026, le vrai bilan d'une présidence, aux éditions L'Artilleur. Vous retrouvez toutes les infos sur notre site de Radio Courtoisie. Alors, ce qu'il y a de bien, effectivement, et vous l'avez rappelé en introduction dans votre livre, c'est que vous êtes moins intéressé à la personne d'Emmanuel Macron qu'à son bilan, et vous avez essayé de le faire de façon objective, en faisant des chapitres par thème, j'ai envie de dire. Donc, on va essayer de répondre un peu à quelques thèmes et à quelques questions. Votre point de départ, il est très fort. Les Français ont le sentiment que la situation se dégrade, alors même que le pouvoir explique, et c'est ce que vous disiez là, c'est à devenir un peu dingue, qu'il réforme et qu'il modernise. Alors, vous avez expliqué en gros ce décalage, Marc Hainaut, rapidement. Est-ce que c'est un problème finalement de résultats concrets, ou alors, de toute façon, quoi que fasse Macron, aujourd'hui, on a une rupture de confiance qui est profonde, et finalement, c'est plus l'homme qui est rejeté que son bilan? Est-ce qu'il y a des choses positives, en gros, chez Macron, qui ont été faites pendant 8 ans?
Justement, j'ai cherché en me disant, et vraiment en me disant, il y a bien forcément des choses qui ont marché, peut-être pas des choses forcément importantes, peut-être même dans le secondaire, après tout, tiens, on a des députés
Macron. Même la déco à l'Élysée, elle est moche.
Oui, en plus, même le Notre-Dame de Paris, même la réflexion de Notre-Dame de Paris était entachée par des choix artistiques discutables. Non, mais par exemple, l'emploi, ce qui m'a frappé, j'étais en train d'écrire ce livre à ce moment-là, et j'entends des députés macronistes faire le tour des plateaux en expliquant, regardez, nous avons créé 2 500 000 emplois.
Ouais.
Dans l'absolu, très bien. Enfin, effectivement, c'est, certainement, ces emplois existent. Et en fait, on s'aperçoit quand on regarde le détail, enfin, quand il faut creuser un petit peu. Mais l'avantage, c'est que toutes les données sont publiques. Encore une fois, ce que j'ai pas mis de notes de bas de page, par exemple, non. sur les chiffres, parce que objectivement, tout est ce sont que des chiffres
tout
publics.
Tout se vérifie de ce que vous
toutes
avez.
Toutes les écrit. Données sont vérifiables. Sur ces 2 600 000 emplois, il y en a. Et c'est là où j'ai oublié le chiffrage précis. 600 000 qui sont des auto-entrepreneurs. Donc des auto-entrepreneurs, donc ça peut être des livreurs, ça peut être des livreurs de repas tels que l'affectionnent les cadres du tertiaire parisien. Le revenu moyen d'un auto-entrepreneur en France, c'est 530 euros par mois.
Voilà,
donc vous avez une grande partie de ces emplois, ce sont des gens qui gagnent en moyenne 500 euros par mois, donc ça ne crée pas de richesse. Vous avez 600 000, c'est des alternants. Alors l'alternance, c'est très bien, ça permet à des jeunes de retrouver le marché de l'emploi plus facilement, de s'insérer plus facilement.
Et ils sont considérés comme ayant un emploi, les alternants.
Ils sont considérés les contrats de professionnalisation, absolument. Et le problème, c'est que donc c'est très bien dans l'absolu parce que ça aide les jeunes à intégrer le marché de l'emploi. Le problème, c'est que ça coûte entre 20 et 30 milliards d'euros par an. Donc c'est de l'emploi qui coûte de l'argent.
Alors ça coûte parce qu'effectivement l'État prend en charge des charges.
Absolument,
etc. Oui.
Absolument. Mais encore une fois, voilà. Mais c'est juste que ça compte dans les 2,5 millions d'emplois que ces gens disent qu'ils ont créés. Ensuite, il vous explique, Emmanuel Macron expliquait pendant des années qu'il allait faire baisser le nombre de fonctionnaires. On peut rajouter 200 000 fonctionnaires supplémentaires dans ces 2 400 000, puisque Emmanuel Macron n'a pas supprimé des fonctionnaires, il en a au contraire embauché davantage. Ça, c'est un autre problème, effectivement, c'est un autre malentendu qu'on a avec le macronisme, qu'on pensait libéral par essence. Et le dernier, donc, reste en gros un gros million d'emplois. Le problème de ce million d'emplois, alors, qui ont certainement été créés, je dis pas du tout que c'est faux, enfin, ils ont certainement été créés, le problème, c'est que vous avez un PIB qui recule. Vous avez un indice de richesse qui baisse. C'est-à-dire que ce million d'emplois qui a été créé en plus, ça veut dire qu'il n'a pas créé de richesse. Ça veut dire qu'on peut supposer rationnellement, et ce n'est même pas moi qui le dis, c'est des économistes que j'ai interrogés, qui on peut supposer rationnellement que ce sont des emplois précaires. Ce sont des emplois d'intérimaire. Ce sont des emplois qui génèrent en tout cas très peu de revenus, en tout cas qui ne créent pas de richesse à l'État, puisqu'on voit bien que le PIB, qu'on décroche sur tous les indices du PIB. Donc les emplois créés sont soit artificiels, soit sont des emplois précaires. Donc en réalité, même ce chiffre qu'ils mettent en avant, même cette gloire qu'ils tirent, eh bien en réalité elle est totalement fausse. Enfin la Macronie n'a pas créé d'emplois, elle a créé des emplois qui appauvrissent, et c'est tout le drame d'un Emmanuel Macron qui nous a expliqué pendant des années qu'il était le candidat de ceux qui ont réussi, qu'il était le candidat de la libre entreprise, qu'il était le candidat un petit peu justement pour reprendre cette métaphore des gares qui sont des endroits formidable, on croise des gens qui ne sont rien, des gens qui ne sont tout, qui ont réussi et des gens qui ne sont rien, pardon. Et bien là où Emmanuel Macron, c'était ça un petit peu au début de son élection, aurait pu être ce président qui a réussi et qui emmène les gens qui ne sont rien dans des trains qui les emmèneront vers la richesse, et bien en fait ça n'est jamais arrivé. Emmanuel Macron a appauvri le pays.
Alors j'ai un auditeur qui a réagi, je vous livre sa réflexion et merci. Hein. Je rappelle que nous avons des bénévoles qui sont au standard, qu'il faut encourager. Voilà. Aujourd'hui, c'est Jean-Loup, qui est très efficace et qu'on salue, qui me fait part de vos réflexions. C'est un auditeur, un monsieur. Pourquoi Macron a-t-il été élu alors Fillon, plus français, aurait dû l'être à sa place s'il n'avait pas été évincé par le Gotha politicien? Ça, vous y revenez aussi.
Oui.
Un président en France est-il élu par défaut plutôt que par conviction? Si oui, on est fichu, car alors le système impose ses choix aux Français. Je pense que le système, petite parenthèse, il est en train de nous donner un futur candidat à l'élection présidentielle.
Oui, mais on peut y revenir aussi, parce que c'est extrêmement...
Et qui s'appelle Édouard Philippe.
C'est extrêmement intéressant. Alors, Édouard Philippe, c'est très amusant, parce que je vais demander aux auditeurs de faire un petit effort de mémoire. On va revenir en 2016, à l'époque où toute la presse avait adoubé Alain Juppé. C'était unanime. Alain Juppé, le maire de Bordeaux, unanime. Enfin, c'est son jour, c'est son année, c'est sa revanche, etc. Alain Juppé humilié à la primaire DLR par François Fillon, qui a réussi à humilier coup sur coup Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Comme quoi, rien n'est écrit d'avance. Pourquoi est-ce que les Français ont élu Emmanuel Macron et pas François Fillon? Moi, je pense vraiment que 2017, il y avait un vrai vote d'adhésion. Pour le coup, Emmanuel Macron, qu'on ne peut pas lui enlever.
Ils l'ont voulu.
Oui, les Français l'ont voulu parce qu'il incarnait quelque chose. Il incarnait justement cette promesse de changement. Il incarnait une forme de révolution.
Donc pas forcément par défaut.
Non, pas par défaut. Et d'ailleurs, quand on regarde, il faut toujours regarder le détail des votes. Je n'ai rien contre les retraités, bien évidemment. Mais on s'aperçoit, on dit aujourd'hui, Emmanuel Macron, c'est le président des retraités. Il n'est élu que grâce aux retraités. En 2017, Emmanuel Macron, il était élu par les actifs. Et en réalité, le score de François Fillon a été particulièrement haut au soir du premier tour parce que 80% des plus de 75 ans ont voté pour lui. C'est ça tout le paradoxe. C'est que Emmanuel Macron était vraiment le président des actifs et François Fillon, le candidat des retraités. Et on a bien vu, justement, cet électorat se décaler au fur et à mesure des années. On se rappelle d'ailleurs que les Républicains en 2017 avaient fait toute leur campagne législative pour essayer de sauver ce qui pouvait l'être en disant « Nous, on est contre la hausse de la CSG sur les retraites. » Ça a été leur seul axe de campagne. Le point qui les différenciait fondamentalement de la Macronie, c'était ça. Donc, et on voit bien qu'année après année, la désillusion vis-à-vis d'Emmanuel Macron a été forte et qu'à partir de 2022, s'est mis en place un vote plutôt des retraités. Je ne dis pas que tous les retraités ont voté Macron. Bien évidemment, chers auditeurs de Radio Courtoisie, si vous êtes retraité, vous n'avez pas voté Macron, ne m'insultez pas. Je sais bien.
Appelez-nous et dites-le-nous.
Voilà, appelez-nous et dites-le-nous. Mais c'est vrai qu'il y a eu, et en tout cas, il y a eu le socle électoral de la Macronie qui a changé, qui s'est recroquevillé.
Il était le genre idéal. Il était Emmanuel Macron.
Ma grand-mère l'adore. Ma grand-mère l'adorait.
Le genre idéal. Voilà. En face, vous aviez Marine Le Pen.
Il a fallu
en plus
se battre pour pas qu'elle. Exactement.
Et donc, ça c'est pas pour les boomers. Hein.
Ça c'est évidemment l'autre sujet. Alors en 2017, évidemment, il y a eu un vote d'adhésion en plus face à une Marine Le Pen qui a été catastrophique dans le débat d'entre deux tours. On ne va pas revenir dessus. Mmh. En revanche, en 2022, effectivement, on a bien vu que la légitimité était quand même en train de baisser. On a vu le score déjà au second tour se réduire face à Marine Le Pen, et surtout, on a vu donc. Il y a eu, c'est évidemment une logique de Front Républicain, mais en fait, on a vu aussi surtout les résultats des élections législatives derrière. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a perdu sa majorité absolue. Je rappelle qu'en 2017, il avait 389 députés sur 577. Il avait tous les pouvoirs
donc
concentrés dans sa main.
Donc il n'a aucune excuse.
Non, c'est bien ça, et c'est bien ça le problème. Et que même le Sénat, qui était à majorité LR, je veux dire, la droite LR au Sénat, c'est pas non plus des ayatollahs de la radicalité, quoi. On est quand même sur du profil assez compatible. Gérard Larcher n'a pas été l'opposant le plus farouche à Emmanuel Macron des deux quinquennats. Mais il y a quand même une sanction, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron s'est retrouvé en majorité relative, et c'est là où tous les défauts qu'on pressentait chez lui se sont révélés vrais. C'est qu'en fait, il avait deux options, soit bâtir effectivement une coalition, soit essayer de trouver des points d'accord avec les différentes oppositions, et bien en fait, il a continué de se comporter comme s'il était encore en majorité absolue. Ce qui a fait que ça a été une espèce de guerre.
Ça rejoint ce que vous disiez, mais sur sa légitimité dont il n'a rien à
Absolument.
Faire non plus. Hein.
Et il se trouve qu'en plus, le groupe LR avait nommé très opportunément en 2022 comme président de groupe Olivier Marleix. Et Olivier Marleix, qui, s'il y avait bien un anti-Macron personnel chez les LR, c'était lui. Mmh. Et de fait, même si le groupe LR a pu travailler avec les macronistes à l'occasion, ça s'est revu, ça s'est accéléré en 2024, mais entre 2022 et 2024, on les a vu trouver des points d'accord, et ben ça a été extrêmement difficile. Et d'ailleurs, on a bien vu la réforme des retraites, la violence qui a été la réforme des retraites, alors même que, soyons honnêtes, il y avait une majorité à l'Assemblée pour ça.
Et que c'était pas une révolution non plus.
Non, c'était pas une révolution. Gabriel Attal lui-même, lorsque la réforme des retraites a été suspendue, a reconnu qu'en réalité c'était le système qu'il fallait changer, que de toute façon cette réforme était morte avant même d'être légalisée.
C'était une réformette.
C'est une réformette. C'était surtout un marqueur politique, et c'était la seule réforme d'envergure d'Emmanuel Macron. C'est la seule raison pour laquelle ils ont eu du mal à la lâcher. Donc Emmanuel Macron en 2017 a été élu par adhésion, en 2022 par Front Républicain, et là on voit bien d'ailleurs que on voit bien l'érosion qui s'accélère, on voit bien qu'en 2026, en réalité, Emmanuel Macron n'a plus de force politique, il est seul à l'Élysée. C'est aussi pour ça qu'il se donne beaucoup sur la scène internationale, parce que c'est peut-être le seul endroit où il a encore une liberté d'agir et une forme de légitimité en tant que chef des armées et chef de la diplomatie.
Alors justement, on y revient un petit peu. En 2017, Emmanuel Macron promettait efficacité, maîtrise, rationalité. Pourtant, dans votre livre, Marc Henault, vous citez des dossiers très concrets qui interrogent, notamment la vente d'Alstom, qui est un General Electric. Qui, quand on s'y penche, et je pense que vous l'avez fait très sérieusement, on a du mal à croire qu'une telle chose puisse être faite par Emmanuel Macron. Enfin, pas que par lui, mais en tout cas pilotée par lui. Ça avait été dénoncé, et vous en parliez, par Olivier Marleix.
Il faut lui rendre hommage là-dessus. Ouais. Absolument, il a fait un travail extraordinaire.
Comme une perte stratégique majeure pour la France. Est-ce que ce type de décision symbolise les erreurs profondes du quinquennat de Macron? Mais vous pensez que pour Macron, c'est une erreur?
C'est plus qu'une erreur. C'est ça le problème. Et le problème, c'est que pour émettre un jugement sur ce qu'est profondément l'affaire Alstom, il faudrait une décision de justice.
Par définition,
nous n'avons pas...
Rappelons aux auditeurs de Radio Courtoisie.
Et je vais vous confesser quelque chose, l'affaire Alstom, je m'y suis intéressé pour ce livre, j'avais toujours fait l'impasse dessus, parce qu'en bon journaliste politique, je m'intéresse surtout au mouvement des forces politiques et aux hommes et aux femmes qui composent, allez, soyons un peu inclusifs, aux hommes et aux femmes qui composent cette classe politique, et l'affaire Alstom a toujours apparu être un espèce de dossier technique, un peu une espèce de serpent de mer. Je disais, après tout, on a Thierry Soler qui va à l'Élysée tous les jours, alors qu'il a 14 mises en examen, ça doit pas être si grave. Et ben en fait, il se trouve, pour la résumer très concrètement, pendant le mandat de François Hollande, le secrétaire général adjoint de l'Élysée apprend que Alstom s'apprêtait à vendre sa branche nucléaire, sa branche stratégique, à un fonds américain. Là-dessus, le secrétaire général de l'Élysée, une fois qu'il a l'information, il est tenu évidemment d'en avertir Bercy, puisque Bercy doit impérativement être mis au courant et doit impérativement valider ou non cette transaction à partir du moment où c'est une entreprise stratégique. Le secrétaire général adjoint de l'Élysée à l'époque, c'était évidemment Emmanuel Macron. Le ministre de l'économie, c'était Arnaud Montebourg. Et lors de la commission d'enquête parlementaire qui avait été souhaité et présidé par Olivier Marleix, Arnaud Montebourg a dit devant les députés « Je n'ai jamais été mis au courant de cette vente. Je n'ai jamais été mis au courant. On ne m'a jamais informé de ce projet de vente. » Et donc c'est la parole d'Arnaud Montebourg, mais théoriquement, mentir devant une commission, c'est passible d'amende et de prison. Donc on peut considérer qu'il ait dit la vérité, il n'avait pas vraiment d'intérêt à mentir là-dessus. Une conclusion s'impose. Pourquoi est-ce que l'information n'a pas été transmise? On a découvert en outre que le secrétaire général de l'Élysée avait demandé à un groupe de conseil un rapport justement sur la réalité, sur les tenants et les aboutissants de ce projet. Et donc il ne se passe rien. Emmanuel Macron est nommé à Bercy et Emmanuel Macron à Bercy valide la vente d'Alstom, quelque chose qu'Arnaud Montebourg, on peut supposer qu'Arnaud Montebourg, en tout cas il l'a dit, lui n'aurait jamais fait. Et là arrive la conclusion et donc des millions, des dizaines de millions d'euros sont distribués aux différents tenants de cette vente, aux personnes qui ont œuvré à cette fusion-acquisition, on va dire. Énormément de ces gens se retrouvent dans le comité de soutien d'Emmanuel Macron en 2017 et ont financé sa campagne présidentielle. Heureux hasard. Et surtout, les députés LR, enfin Olivier Marleix, on parle quand même de soupçons de pacte de corruption. Évidemment, ce ne sont que des soupçons. Bien évidemment, on ne peut rien prouver. Bien évidemment, la justice travaille d'ailleurs sur le sujet. Mais on peut supposer que Emmanuel Macron a péché soit par un amateurisme absolu, c'est à la limite ce qui est possible, ce qui serait presque encore plus inquiétant, soit il y a eu un moment donné où Emmanuel Macron, ancien banquier d'affaires, a utilisé les outils de l'État pour favoriser une vente alors même qu'elle menaçait alors que c'était une vente d'un objet stratégique dans le cadre de notre défense, d'un fleuron français, d'un soit fondamental dans notre défense nationale et dans nos intérêts vitaux, et on le voit bien avec la crise internationale en cours. Et là, c'est effectivement beaucoup plus ennuyeux sur le plan moral, sur le plan judiciaire, etc. Et le pire dans tout cela, c'est que les gens l'ont peut-être oublié, mais il y a un an, Emmanuel Macron rachète cette branche d'Alstom aux Américains pour la faire revenir dans le giron de français à l'époque où on en faisait des caisses sur notre souveraineté qu'on perdait. Du coup, on rachète évidemment extrêmement cher.
J'avais complètement oublié
évidemment,
ce passage.
Évidemment, extrêmement cher. Donc, la France perd un argent hallucinant là-dessus. Et entre-temps, évidemment, tous les brevets sont partis dans la nature. Et évidemment, comme la justice ne s'est pas encore prononcée, on ne peut pas formuler d'accusation.
Elle le fera une fois qu'il sera plus président,
on espère. Enfin, en tout cas, je suis tenu d'avoir confiance dans l'impartialité et la justice de mon pays, donc je m'y plie, il n'y a aucun problème. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des soupçons extrêmement graves. Quand vous avez quand même un député, quand vous avez quand même Olivier Marleix, qui n'était pas la moitié d'un idiot et dont tout le monde vantait le sens moral de justice, de rigueur, la fine connaissance de dossier, parle de possible pacte de corruption. Les mots sont extrêmement forts.
C'est qu'il doit avoir des informations.
C'est qu'il y a quelque chose. Donc voilà, si vous voulez, et c'est ça, l'affaire Alstom, c'est ce qui a un petit peu pourri le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est pourri, en tout cas, la fin du quinquennat de François Hollande et le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Mais force est de constater que ça n'a pas empêché d'être élu et d'être réélu.
Alors, j'ai un auditeur, on a lancé un appel tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il est entendu, Marc Hainaut. J'ai 77 ans, je n'ai jamais voté pour Macron, pas plus que pour la gauche. Merci à lui. Donc, on attend d'autres témoignages de retraités.
J'en étais sûr, je savais que c'est dans une radio bien écoutée.
N'ont pas voté à gauche et qui sont malgré tout retraités. Et comme ça, on va tordre le cou à cette idée que c'est les retraités qui ont élu Emmanuel Macron. Macron a été l'homme, nous dit un auditeur de Davos, qu'il a qualifié de guide pour l'Europe. Alors, est-ce que... Oui, alors on s'est toujours interrogé. Macron élu de nulle part, venu de nulle part et d'un seul coup président.
Alors, Macron, on peut remonter un petit peu sa filiation. On sait qu'il a été poussé dans les arcanes de la Hollandie via notamment Jacques Attali et Alain Minc, qui depuis d'ailleurs disent pique-pendre de leur élève, donc il a même réussi à décevoir ses maîtres. Et pour être tout à fait concret, au niveau du forum de Davos, etc., j'avoue que c'est assez opaque, mais en revanche, ce qui est certain, c'est que la légitimité politique de Macron, elle se trouve chez les Strauss-Kahniens. Pourquoi ? Parce qu'en 2017, il y a toute l'ancienne équipe de Dominique Strauss-Kahn, on retrouve des Ismaël Emelien, des Benjamin Griveaux, des Sibeth Ndiaye, tous ces gens avaient œuvré à la candidature présidentielle de Dominique Strauss-Kahn en 2012. D'ailleurs, on retrouve dans la suppression de la taxe d'habitation, cette fameuse suppression qui a fait hurler les collectivités et accessoirement les propriétaires, eh bien, c'était une des idées phares du programme présidentiel de Dominique Strauss-Kahn. Donc, il y a quand même une filiation. D'ailleurs, tous ces gens ont totalement disparu depuis. Ils n'ont pas survécu aux premières années du premier quinquennat. Donc, la filiation d'Emmanuel Macron, elle est effectivement plutôt du côté de Dominique Strauss-Kahn, c'est-à-dire une gauche social-démocrate qui, au fond, n'a jamais vraiment su si elle était étatiste, libéraliste, si elle était pour la grande finance, si elle était pour une forme de protectionnisme. En réalité, cette filiation est très nomade en réalité sur le plan politique, idéologique et sur le plan même sur le plan international.
Alors, donc, on a évoqué l'affaire Alstom, Olivier Marleix, qui, effectivement, comme vous le disiez, parlait même d'un scandale d'État.
Absolument.
Pour rappeler à nos auditeurs de Radio Courtoisie, Olivier Marleix s'est suicidé il y a quelques mois.
Absolument.
Un livre est paru d'ailleurs.
Un très beau livre que j'encourage à lire. C'était un grand admirateur de Georges Pompidou et il puise beaucoup dans Le Nœud Gordien, qui était l'ouvrage phare du deuxième président de la Ve République. Et s'il y a bien un livre d'ancien président à lire, c'est celui-là. Voilà, petit conseil personnel.
Bah, très bien, on le note. Donc sur ce dossier, vous l'avez très bien relevé, comme sur d'autres, on retrouve un paradoxe, hein, défendre la souveraineté industrielle et en même temps accepter des décisions qui la fragilisent. C'est vraiment typique de cette « en même temps », à force de vouloir tout concilier, je pense qu'on finit par ne plus rien maîtriser. Il maîtrise, Macron, ce qu'il fait ? Il a encore la main ou il se réveille le matin et il se demande ce qu'il va faire ? Ou vous pensez qu'il a une ligne d'action ?
C'est une excellente question que vous posez, on ne sait pas. Non, mais en tout cas, ce qui est certain, dis-moi, il y a un exemple qui m'a frappé dernièrement, par exemple, c'était la nomination d'Amélie de Montchalin à la Cour des comptes, à la présence
de
la Cour des comptes.
Rappelez pour combien de temps, voilà. Parce que je l'ai découvert grâce à votre livre.
Alors,
Amélie
de Montchalin a une toute petite quarantaine d'années et un président de la Cour des comptes est élu théoriquement jusqu'à son départ à la retraite qui est fixé à 68 ans.
Voilà.
Donc, Amélie de Montchalin, potentiellement, elle est nommée pour 28 ans à
2053.
La tête. Voilà. À la tête de la présidence de la Cour des comptes, ce qui est d'ailleurs extrêmement intéressant parce que Amélie de Montchalin est l'ancienne ministre du budget, ce qui veut dire que dans quelques mois, la présidente de la Cour des comptes va devoir juger le budget de la ministre des comptes publics. Donc, est-ce que la présidente Montchalin va désavouer la ministre Montchalin ?
Et ça constitutionnellement, il n'y avait rien à dire.
Il n'y a rien à dire. Alors, j'ai même interrogé un constitutionnaliste connu pour ça. J'ai interrogé Benjamin Morel là-dessus. Il m'a dit, en fait, non, constitutionnellement, il n'y a rien à dire parce que la tradition est effectivement qu'on nomme président de la Cour des comptes un membre de son opposition. Par exemple, Philippe Séguin était président de la Cour des comptes sous François Hollande, c'est ça. Et après a été nommé Pierre Moscovici sous Emmanuel Macron. En tout cas, il y a sous Nicolas Sarkozy, pardon. En tout cas, je crois que c'est ça. Il faut vérifier. En tout cas, il y a une tradition de nommer un membre de l'opposition à la présidence de la Cour des comptes pour justement garantir symboliquement l'indépendance de cette institution vis-à-vis des comptes publics et des influences politiques. Donc, ce qu'a fait Emmanuel Macron, constitutionnellement, c'est exact. Il a le droit. Il a effectivement le droit de nommer strictement qui il veut à la présidence. Mais effectivement, là où il fait une entorse grave, c'est à l'esprit de cette constitution et au fond, ce qui garantit sa stabilité, sa solidité, sa légitimité. En nommant une fidèle parmi les fidèles à la présidence de la Cour des comptes, après avoir nommé un autre fidèle parmi les fidèles à la présence du Conseil constitutionnel qui est Richard Ferrand.
Oui.
Richard Ferrand à qui il doit notamment la scission d'une partie du Parti Socialiste en sa faveur. Eh bien, effectivement, il donne une impression qui n'est pas qu'une impression qui est réelle d'une tentative de verrouillage des institutions parce que penser d'un président qui à quelques mois, années de quitter le pouvoir, nomme ses fidèles à la tête de toutes les institutions censées garantir la bonne marche de l'État, sans oublier la présence de la Cour des comptes qui est aux mains d'un membre éminent du Parti Socialiste. Donc, effectivement, pour le prochain président de la République, quel qu'il soit, quel que soit son bord politique, qu'il soit LR, qu'il soit RN ou même qu'il soit LFI, eh bien, il aura à affronter des institutions qui seront bloquées, qui pourraient potentiellement jouer contre lui, en tout cas, rendre extrêmement difficile l'exercice du pouvoir.
C'est quand même quelque chose d'incroyable qu'on soit nommé jusqu'à sa retraite.
Oui, c'est
une spécificité française. Votre livre,
tous les chefs d'entreprise de ce pays,
d'ailleurs, hurlent. Il y a quelque chose de monarchique là-dedans.
Mais absolument. Mais on peut pas en vouloir à Emmanuel Macron là-dessus.
Il utilise des ficelles. Hein.
Oui, c'est ça. En fait, c'était quand même la volonté du général de Gaulle. Il y a toujours eu cette anecdote racontée par quelques historiens du général de Gaulle, dans les derniers mois de sa vie, qui rendait une visite officieuse au général Franco et disant à Franco, vous avez réussi ce que je n'ai pas pu faire en France, rétablir la monarchie. Tout le monde sait que le général de Gaulle avait un côté extrêmement monarchiste, qu'il avait une vision extrêmement monarchiste du pouvoir en France. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'Emmanuel Macron avait fait cette sortie au puits du fou sur le côté un petit peu monarchiste des Français.
Oui, et puis Mitterrand s'en était bien servi avant.
Absolument.
Lui.
Absolument.
Hein.
La constitution de la Ve République, en soi, est une constitution qui ressemble beaucoup à la France. Le seul problème, c'est qu'elle a été taillée par et pour une personnalité que l'on aime ou qu'on qu'on déteste pour les différentes décisions qu'elle a eu à prendre dans l'histoire de France, mais qui avait quand même cette faculté à habiter sa fonction. Et ce qu'aucun autre président n'a réussi à faire, et c'est tout l'impression que donne Emmanuel Macron, c'est se débattre dans un costume beaucoup trop grand et à utiliser cette constitution non pas dans l'intérêt général, mais dans son intérêt propre et dans l'intérêt de sa propre carrière.
Alors, on va reprendre aussi, et vous faites un chapitre dessus sur l'immigration, hein, parce que c'est quand même un énorme sujet en ce moment. Donc, sur l'immigration, on retrouve aussi parfaitement le paradoxe de Macron, un discours de fermeté, hein, plus d'une vingtaine de lois ou de textes, je crois 22 en quelques années, et pourtant un sentiment largement partagé par les Français, en tout cas ceux qui sont dans la vraie vie, que rien ne change, voire ça empire. Comment vous expliquez-vous cet écart entre affichage politique et réalité ? Est-ce qu'à force de légiférer beaucoup, on n'arrive pas à agir ? Ou est-ce que Macron, ça se sous-entend un peu dans votre livre, c'est finalement un président qui n'a pas idée de ce qu'est une frontière ?
Il y a un peu de tout cela. Alors, je vais lui rendre justice, cette phrase qui disait « On a eu 15 lois immigration en quelques années, est-ce qu'on a l'impression que la situation a été réglée ?» Non, elle vient de Benoît Hamon. Benoît Hamon qui, comme toute horloge cassée, donne l'heure au moins deux fois par jour. Donc, effectivement, il a raison. Et d'ailleurs, ça a été terrible. C'est terrible, cette séquence, puisqu'on n'en sort pas. Puisque tout le monde a bien compris que l'immigration, ça ne se résoudrait pas avec une proposition de loi venant de l'Assemblée nationale. Sinon, ça se saurait qu'on a fait rentrer cette année en immigration légale plus que la ville de Nice.
On a fait rentrer cette année en légal, hein, on parle
oui,
même
en
pas
légal,
de...
bien sûr, on parle pas des clandestins, mais
un nombre équivalent à la population de la ville de Nice.
Un même supérieur.
C'est absolument glaçant, mais
voilà, Nice qui rentre tous les ans en France de manière légale. Voilà. Donc c'est un petit peu le sujet. Le problème, alors l'immigration, Emmanuel Macron, c'est un débat extrêmement vaste parce que Emmanuel Macron, il est jeune, il donnait l'impression de vouloir révolutionner la politique, donc tout le monde se dit, il va avoir un œil neuf sur le sujet. En fait, Emmanuel Macron a une vision extrêmement ancienne, extrêmement ringarde presque de l'immigration. Il est encore dans une logique de la mixité heureuse, du vivre ensemble, de la mondialisation, de la mondialisation satisfaite, quoi, où tous les peuples se croisent, où les échanges se font, où finalement tout cela ne peut être que signe de richesse. Ce qui d'ailleurs lui donne de bons points communs avec Jean-Luc Mélenchon. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il s'est heurté à une chose qu'il aurait peut-être dû prévoir, qui s'appelle l'exercice du pouvoir.
Oui.
Et la responsabilité qui en découle. On dit, j'ai presque envie de citer Spider-Man, l'homme araignée, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est un petit peu le sujet. Le problème de l'immigration, c'est qu'effectivement, Emmanuel Macron, il faut savoir qu'en 2017, il a été élu il avait dans son groupe à l'Assemblée nationale un tiers de députés qui venaient de DLR, plus ou moins, un tiers de députés qui venaient de la gauche, du Parti Socialiste, et un tiers des députés qui venaient de la société civile. Sans présumer beaucoup des profils de la société civile, on ne s'engageait pas chez Emmanuel Macron pour avoir un discours ferme sur l'immigration. On s'y engageait pour d'autres raisons. Donc évidemment, première loi immigration, ça n'a pas tardé, c'était en 2018, sous l'impulsion de Gérard Collomb, qui peut-être dans les dernières années de sa vie a eu une crise de lucidité.
Oui, ça, on va en parler.
En voyant l'État réel, en fait.
Fidèle parmi les fidèles.
Exactement, mais qui n'a pas duré très longtemps, justement. Ça n'a pas survécu à la première année d'exercice du pouvoir
2018.
D'Emmanuel Macron, et c'est extrêmement intéressant, ça. Mmh. Et en tout cas, la loi immigration qu'a voulu faire passer Gérard Collomb, qui était une loi extrêmement dure, a fait exploser le groupe.
Et Gérard Collomb, c'est un socialiste.
C'est un socialiste, tout à fait, c'était le maire de Lyon, mais c'est c'est une socialiste pragmatique, on va dire, qui est quand même... il est vrai que Grégory Doucet fausse un petit peu le bilan, mais comparé à Grégory Doucet, les gens étaient assez satisfaits de Lyon à la sauce Gérard Collomb. Mmh. Donc il y a eu cette première loi immigration qui n'a fait que fracturer son groupe. Donc il a, avec comme un premier indice qu'il faut pas trop aller sur ce sujet-là si on veut commencer, si on veut faire quelque chose. Mais surtout l'exercice du pouvoir, ça veut dire la montée de l'insécurité et le fait d'assumer cette insécurité qui progresse. C'est un petit peu, si vous voulez, ça a forcé la Macronie finalement à faire une espèce de crise de schizophrénie, à vanter d'un côté la mondialisation heureuse et en même temps devoir condamner effectivement les aspects négatifs de l'immigration. Donc on se retrouve finalement encore une fois avec cette espèce d'en même temps impossible d'un président qui a un logiciel extrêmement daté sur l'immigration. Ses troupes qui, sous l'impulsion de ces sujets, se redivisent entre une aile gauche et une aile droite, assez naturellement, parce que vous avez quand même chez Renaissance des gens qui sont quand même issus de LR, je pense au député Charles Rodwell, etc., qui n'ont généralement pas trop de problèmes à voir le réel sur l'immigration. Mmh. Et vous vous retrouvez du coup avec une majorité qui est totalement ingouvernable, qui est prête à l'explosion, des ministres qui vous expliquent en fait qu'ils ne sont pas engagés chez vous pour cela, et donc une incapacité structurelle.
Mais là, ça s'appelle être rattrapé par la réalité.
Non, mais
terrain.
C'est ça. C'est une incapacité structurelle du coup à appréhender la situation. Donc en fait, la Macronie s'est retrouvée comme dans une pente, si vous voulez, avoir essayé de donner des coups de frein à main, en casser le moteur pour essayer de s'arrêter dans la descente.
Et ça, c'est lutter contre le réel. On peut pas,
exactement.
On peut pas commencé comme ça.
Exactement, et après vous avez eu évidemment d'Éric Dupond-Moretti qui vous explique que l'insécurité est un sentiment. Vous avez Gérald Darmanin qui vous explique qu'en Seine-Saint-Denis, les responsables des violences sont les supporters anglais. Vous vous retrouvez effectivement dans l'obligation de la mythomanie, puisque vous avez une réalité qui n'est pas du tout conforme à ce que vous avez vendu et sur laquelle vous fondez une part de votre légitimité, parce qu'Emmanuel Macron, c'était le candidat en 2017 qui disait il n'y a pas de culture française, mais qui disait je vois des Maliens, des Algériens, des Sénégalais, des qui vous voulez, tout sauf des Français. Et vous vous retrouvez finalement avec un petit peu ce bug dans la matrice qui est de dire il y a notre idéologie, il y a ce pourquoi on a été élu face au vilain Rassemblement National avec son discours extrêmement stigmatisant sur l'immigration et une réalité qui nous explose à la figure.
Alors justement, Gérard Collomb, vous en avez parlé, je trouve que c'est important de le noter, en tout cas cette amitié quasiment filiale qu'il y avait au départ. Oui. Hein, on se souvient quand Emmanuel Macron est rentré à l'Élysée, il y a eu une accolade, Gérard Collomb a eu larmes aux yeux, tel un papa qui félicitait son fils, fier de lui. Enfin, il y a eu quelque chose d'assez sincère, en tout cas dans la démarche de Gérard Collomb, j'aurais plus de mal à le dire pour ce qui est d'Emmanuel Macron. Mais il y a un moment clé qui a été quand même le départ, justement, très rapide, et vous le mentionnez, en 2018, donc quasiment immédiat, Gérard Collomb, qui était ministre de l'Intérieur, quand même, et qui a alerté publiquement sur une situation qui allait, on lie à l'immigration, qui allait devenir de plus en plus difficile. C'est le fameux « à force d'être côte à côte, on va se retrouver face à face ».
C'était le moment de son départ de la place Beauvau.
C'est fort, quand même. C'était un message fort. On viendra plus que c'était un homme de gauche, quand même. On ne parle pas d'un RN, on parle d'un PS. Et on était en 2018, donc quand même de l'eau a coulé sous les ponts. Depuis, avec le recul, est-ce que c'était un signal majeur que le pouvoir n'a pas voulu entendre? Quand le ministre de l'Intérieur lui-même s'inquiète, est-ce que la politique ne change pas? Est-ce déjà une forme d'impuissance d'Emmanuel Macron? Où il s'est dit, tu m'as servi, Gérard Collomb est arrivé là où je suis, basta, je vais t'oublier aussi vite.
Il y a forcément de cela, parce que pour Emmanuel Macron ne doit rien à personne. Donc toutes les personnes qui ont été emmenées avec lui ne l'ont été que grâce à lui, et le jour où il les lâche, elles doivent considérer qu'elles ont déjà eu bien de la chance d'avoir vécu ce qu'elles ont vécu grâce à lui. C'est réel en plus. sur Gérard Collomb, moi je me rappelle de dialogue qu'on a pu avoir avec les équipes d'un ancien ministre de l'Intérieur. Il me disait, il faut savoir que le ministre de l'Intérieur, tous les matins, il a sur sa table la fameuse note. La réalité de la sécurité en France, de l'insécurité plutôt en France au jour le jour. Et un conseiller me dit, si les Français avaient ça sur leur table tous les matins, le pays serait foutu. On se réveillerait. En tout cas,
adieu les castors et barrages.
Beaucoup d'entre eux seraient foutus. Voilà. Ça, la réalité est effrayante. Cette réalité, elle est totalement effrayante. Et je pense que Gérard Collomb, en tant que maire de Lyon, il a déjà pu voir au niveau local, ce que les conséquences de l'immigration, potentiellement de l'immigration, etc., des clandestins, de l'insécurité dans les transports. Mais là, en tant que ministre de l'Intérieur, je pense qu'il y a eu un moment, en fait, où il a vu la réalité, effectivement. Il y a eu des passes d'armes absolument violentes à Calais entre Emmanuel Macron et Gérard Collomb. Justement, un désaccord idéologique majeur sur Gérard Collomb qui au fond était fidèle à la promesse macroniste originelle, sortir du clivage gauche-droite, prendre la politique de manière non partisane et finalement traiter la réalité. Il s'est aperçu qu'Emmanuel Macron, en fait, n'était pas du tout dans cette logique-là. Donc Gérard Collomb, effectivement, a proposé sa démission, elle a été refusée. Finalement, au bout de la troisième fois, Emmanuel Macron dit voilà.
Mais pas de prise de conscience pour autant d'Emmanuel Macron.
Aucune prise de conscience. Vous vous rappelez qui est le successeur de Gérard Collomb?
Non.
Christophe Castaner.
Oui, je l'ai oublié.
S'il avait écouté Gérard Collomb, il n'aurait certainement pas nommé Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Christophe Castaner qui a connu une carrière politique flamboyante, tellement que vous l'aviez oublié, que tout le monde l'a oublié. Il avait essayé de se recaser comme VRP pour Chine, la marque de prêt-à-porter chinois. Donc, en tout cas, il a nommé Christophe Castaner, donc visiblement, il s'en moquait. Et effectivement, Gérard Collomb, le jour de la passation de pouvoir, sort cette fameuse phrase hier, nous étions côte à côte, demain nous serons face à face. La crainte qu'il avait, il l'a dit. Ce qu'il laisse toujours dire un peu aux Français, c'est quand même fou de dire la vérité une fois qu'on n'est plus au pouvoir.
Oui, c'est vrai aussi.
C'est toujours un petit peu rageant. Mais en l'occurrence, Gérard Collomb, je pense vraiment qu'il avait, pour le coup tout essayé, et convaincu de l'inutilité, a fini par claquer la porte. C'est le drame effectivement de cette séquence, et tout lui a donné raison. Évidemment, les Français le savent, mais il y a eu. C'était quelques années avant les émeutes en lien avec la mort du jeune Nahel Merzouk, et on a vu la réalité qu'effectivement, quoi. Enfin, c'était le mythe du vivre ensemble était terminé, et que cela évidemment n'a fait qu'accélérer le délitement de la Macronie, comme si finalement la bulle éclatait et que le réel revenait.
Alors, des réactions d'auditeurs, et je vous remercie. Et je remercie Jean-Loup, bénévole, qui me les amène régulièrement. Un auditeur nous dit, au deuxième tour des élections de 2022, Mélenchon a appelé à voter Macron. Sans cela, Macron aurait-il été élu? Il doit son élection à Mélenchon. Est-ce pour cela qu'il ne s'en prend pas à LFI?
C'est très compliqué la relation entre la France insoumise et Emmanuel Macron, entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Au début, il y avait une forme d'admiration et de respect mutuel. D'ailleurs, dans les premières années de son quinquennat, son premier quinquennat, Emmanuel Macron qui a gagné grâce à Marine Le Pen et qui n'est pas complètement idiot, qui sait qu'une part des votes pour lui l'ont été contre en réalité Marine Le Pen, et il a tout fait pour présenter Marine Le Pen comme l'ennemi, le Rassemblement National, le Front National comme les ennemis. Moi, je me rappelle la campagne européenne de 2019, le clip de campagne de la tête de liste Nathalie Loiseau, c'était nous le chaos, quoi. Mais c'était soit vous votez pour les fascistes, soit vous votez pour les gentils. C'est très amusant parce que cette dialectique maintenant elle est passée à la France Insoumise de manière un peu plus extrême, et comme quoi il y a quand même une vraie corrélation. Et le problème qu'il y a aujourd'hui effectivement Emmanuel Macron, c'est qu'en 2017 et en 2022, de toute façon, Jean-Luc Mélenchon a appelé à voter pour lui. La France Insoumise a appelé à voter pour Emmanuel Macron. Ça a mieux marché, je pense, en 2017 qu'en 2022. Je pense qu'en 2022, l'électorat insoumis a considéré qu'entre Macron et Le Pen, il n'y avait plus de différence flagrante. En tout cas, rien qui justifiait forcément de se le voter.
Et puis, c'est renforcé l'électorat et les fils.
Exactement. Et on l'oublie, effectivement. Mais Jean-Luc Mélenchon, le RN a quand même connu des sueurs froides au soir du premier tour de l'élection présidentielle 2022, puisqu'on voyait Marine Le Pen stagner et Jean-Luc Mélenchon monter au fur et à mesure que les grandes métropoles étaient dépouillées, qu'elles l'ont été un peu plus tard. Donc ça, c'est un fait. Et aujourd'hui, le problème, c'est que vous avez une Macronie, il y a eu le 7 octobre, pardon, 2023, évidemment, avec cet éclatement de la bulle, où finalement on s'est aperçu, en fait, quand on draguait l'électorat musulman, il fallait avoir une certaine dose d'antisionisme, voire d'antisémitisme. Et que ça, évidemment, pour l'électorat centriste et pour la Macronie, c'était insupportable. Le problème, c'est qu'il se retrouve finalement avec tout cet historique de barrage républicain fait avec la France Insoumise contre le Rassemblement National, avec aujourd'hui une France Insoumise pour laquelle effectivement, qui a effectivement appelé à voter pour en 2007, en 2022, pour laquelle Gabriel Attal a appelé à voter en 2024 face au Rassemblement National,
et ça, il faut
contre l'avis d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, c'est ça qui est amusant, parce qu'Emmanuel Macron, en faisant cette dissolution, vraiment misait sur une victoire du Rassemblement National, misait sur Jordan Bardella à Matignon, et donc lui, en tant que seul opposant, avec une cohabitation jusqu'en 2027. Dans l'esprit d'Emmanuel Macron, c'était ça, sauf qu'il a sous-estimé l'instinct de survie de Gabriel Attal, qui a voulu évidemment sauver ce qui restait de ses troupes. Et d'ailleurs, on le voit, 2017, La République En Marche, 380 députés, 2024, composante minoritaire d'un socle commun minoritaire. Enfin, la boucle est bouclée.
Alors, marquez-nous, tout en lisant ce livre, moi j'avais une question qui me taraudait, vous y répondez en transparence, donc je rappelle à nos éditeurs de Radio Courtoisie le titre de votre livre, L'ampleur des dégâts, aux éditions L'Artilleur. J'ai l'impression, mais dites-moi si je me trompe, qu'Emmanuel Macron a tout fait pour ne pas avoir d'héritier parce qu'il aurait comme l'intention de revenir.
Je ne suis pas le seul garant de cette théorie.
C'est une pensée cauchemardesque, mais il faut l'aborder.
Je ne suis pas le seul garant de cette théorie. Je pense qu'en tout cas, s'il
n'a pas d'héritier, déjà,
il n'a aucun héritier, il a tout fait pour ne pas en avoir, effectivement. Mais si vous commencez à faire, déjà, si vous commencez à faire monter Gabriel Attal, eh bien, en fait, vous ne pouvez plus revenir derrière parce que vous avez organiser votre propre succession. On a très peu vu dans l'histoire des rois venir détrôner leur fils pour reprendre leur place sur le trône. Ça s'est vu, mais de manière assez rare. Donc oui, Emmanuel Macron en réalité veut revenir en 2032, c'est acté. Je pense que le verrouillage des institutions n'y est pas pour rien. Je pense qu'il mise effectivement sur un quinquennat d'un extrême quelconque, que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen ou Jordan Bardella, pour justement revenir en 2032, acter la fin. Acter l'incapacité de ses troupes à se débrouiller sans lui, entre guillemets, compter sur l'amnésie des Français. Je veux dire, quand il voit François Hollande commencer à revenir, il se dit, au fond, 5 ans ou 10 ans suffisent pour faire oublier un mandat. Oui. Donc, effectivement, Emmanuel Macron veut revenir en 2032 et c'est aussi pour cela qu'il ne se crée pas d'héritier.
Donc, pas d'héritier pour Emmanuel Macron. Alors, j'ai à nouveau un auditeur qui me dit qu'étant retraité, malgré moi, alors voilà, jamais je ne voterai pour un personnage qui m'évoque le Tony Montana de Scarface de Palma.
Venez me chercher. Ouais.
Voilà, exactement. Avec le recul de l'âge devant la déchéance du pays, il me semble vital de porter au pouvoir une personne logique à la culture solide, pas une figure de mode promettant de rembourser les lunettes, ni un amateur d'eau tiède, prometteur de lois liberticides, sorti du marigot centriste qui nous a ruinés avec l'Union européenne. Et puis j'ai une autre réaction d'un auditeur fidèle qui s'appelle Jérôme et qui revient un peu sur les propos du départ où vous disiez qu'effectivement, si les emplois ont été créés, pas de richesse, en tout cas à mettre en face en tant que corollaire. Jérôme nous dit que le bilan économique d'Emmanuel Macron peut aussi se voir en continuité de ses prédécesseurs. Effectivement, hein, les 35 heures visaient la réduction du chômage par le partage du travail à PIB égal, donc des revenus qui baissent pour les salariés en relatif. Et finalement, une France et des Français qui s'appauvrissent, et ça, on peut le constater tous les jours. Alors, en conclusion, parce qu'on arrive à la fin de... On ne veut pas trop en dire non plus, il faut aussi que nos auditeurs de Radio Courtoisie aient envie de lire votre livre. Achetez-le surtout. J'espère qu'il est vendu un peu partout, la FNAC,
Partout. Il est trouvable objectivement partout. Attend toutes les FNAC et l'artilleur a un bon réseau de distribution.
Très bien. Parce que les maisons d'édition, c'est jamais facile pour eux, pour elles en tout cas, et c'est pour ça aussi que j'en parle. Donc, aux éditions L'Artilleur. Alors, dernier commentaire, merci Jean-Loup de me l'apporter d'un auditeur. Macron et Mélenchon, décidément, c'est le duo infernal. Je pense que c'est le cauchemar de nos auditeurs. Macron et Mélenchon forment deux aspects d'une même politique, avec des aspects correspondant à leur clientèle respective. Notez qu'ils sont ou ont été membres de loges maçonniques.
Paradoxalement, j'ai un petit peu fait l'impasse sur la franc-maçonnerie parce que Emmanuel Macron n'en fait pas partie. Il y a rien en tout cas qui le démontre et que
même
la franc-maçonnerie,
de ça, il est indépendant.
Oui, et que la franc-maçonnerie sous le quinquennat, sous les deux quinquennats d'Emmanuel Macron, aurait, d'après ce que disent la plupart des gens, perdu en influence. Parce que justement, Emmanuel Macron appartient à une génération qui est moins marquée par cela. Donc, il y a des francs-maçons déclarés dans l'entourage d'Emmanuel Macron. Alors, Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, est franc-maçon, par exemple. Il y en a, mais en tout cas, Emmanuel Macron ne l'est pas. Et son entourage le plus proche, en tout cas, n'a jamais fait état d'en faire partie.
Alors, c'est vrai que votre livre, il décrit une présidence qui est traversée de contradictions. On en a quand même relevé quelques-unes. La volonté de moderniser, la Startup Nation quand même. Ce qu'on peut nous constater, c'est un sentiment de dégradation, discours de maîtrise, mais impression d'impuissance, en même temps permanent. Est-ce que le en même temps, finalement, c'était une idée brillante, mais impossible à tenir dans la réalité du pouvoir?
C'est impossible. Enfin, le problème de l'en même temps, c'est que vous prenez deux idées contraires et vous essayez de les faire naviguer ensemble. En fait, c'est pas possible. Vous pouvez pas creuser un sillon avec une paire de bœufs dont l'un part à droite et l'autre part à gauche. C'est bête, mais c'est comme ça. Ça peut marcher dans le cadre d'un tandem. On disait souvent que Jordan Bardella et Marine Le Pen faisaient pratiquer eux aussi une forme d'en même temps, mais il y avait moins d'incohérence chez eux. Il y avait presque une forme de complémentarité puisqu'ils étaient deux personnalités distinctes, donc ils pouvaient incarner deux sensibilités différentes. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, qui avait en plus une vision très personnel et individuel du pouvoir, parfois il donnait presque plus l'impression d'être bipolaire, si vous voulez, idéologiquement, que d'avoir une forme de complémentarité et de justesse et d'équilibre, en fait. Tout comme certains chrétiens confondent la retenue, la prudence et la tiédeur, et ben Emmanuel Macron confond justement, l'équilibre et la bipolarité.
Alors, on va essayer de se tourner vers l'avenir, parce que les élections présidentielles, c'est l'année prochaine. Vous parlez de dégâts, c'est un mot qui revient souvent. Est-ce qu'ils sont réparables? Et quel nouveau président, suite à Macron, il faut souhaiter à la France?
Un réformateur, mais comme on n'en a jamais connu, on sait que les Français veulent des réformes, mais pas de changement. On l'a vu avec les débats sur le budget, en réalité. Si on a 30 secondes pour revenir sur les débats du budget, mais qui ont été absolument hallucinants. On voyait des macronistes arriver avec un budget, demande à n'importe quel chef d'entreprise. Vous avez 1000 milliards de dettes, vous mégotez sur quelques milliards de déficit en moins. Enfin, au bout d'un moment, c'est pas tenable. On a bien vu que le budget, c'était un moyen pour les forces politiques de poser leurs petits marqueurs ça et là, mais que personne n'avait vraiment envie de changer quoi que ce soit. Non, il faudrait... je suis pas ultra-libéral, par exemple. La gouvernance française en matière économique depuis 30 ans est en train de me le faire devenir, parce qu'en fait, il faudrait un choc absolument violentissime pour essayer de résorber cela. Il faudrait renverser la table, en fait, et tout changer, parce que... où vous pourrez avoir des gouvernements qui disent « moi, je vais réduire le déficit à 5, 3, 2%. »
Donc un homme de conviction ou une femme ?
Un homme et une femme de conviction
qui n'a pas peur de ne pas être élu.
Qui n'a pas peur de ne pas être élu, anti-étatiste.
Oui.
Prête à dégager un nombre de fonctionnaires absolument hallucinant, prêt à revenir, je suis désolé pour nos auditeurs retraités, mais à revenir sur les retraites, parce que c'est le seul éléphant dans la pièce que personne ne veut voir. Les retraites, c'est 400 milliards d'euros par an. C'est pas possible. Enfin, il y a un moment donné, quand on voit que supprimer l'abattement de 10% Pour les retraités, c'est un sujet tabou parce qu'en plus on nous sort les petites retraites, mais en sachant que les petites retraites, ne sont pas soumises à cet abattement parce que justement elles sont trop petites pour cela. En fait, si vous voulez, le problème c'est qu'on a des actifs qui s'appauvrissent, on est frappé par une crise économique. Je veux dire, les actifs sont totalement déclassés, la classe moyenne est en train d'être réduite à sa portion la plus congrue. C'est cela qu'il faut revoir en priorité, et évidemment une politique extrêmement ferme sur l'immigration. Quelqu'un qui soit à la fois finalement libéral au sens réel et extrêmement ferme sur les questions de souveraineté et d'immigration. Et peut-être que c'est encore sauvable. Alors moi, j'avoue que je n'ai pas d'argument à donner aux optimistes et aux pessimistes, parce que je m'y refuse, parce que les prévisions n'engagent généralement que ceux qui y croient. Je pense que c'est encore sauvable, mais qu'il faut un changement dès maintenant. Et on dit toujours, si on gagne pas maintenant, la fois d'après c'est foutu. Ça a servi pendant des années, ça a souvent été exagéré. Là, je pense véritablement qu'on arrive à ce point de bascule et qu'il faut réagir maintenant.
Merci Marc Henault pour votre analyse
Merci
politique. L'ampleur des dégâts aux éditions L'Artilleur, le vrai bilan d'une présidence, à lire avec attention. Merci à vous, à bientôt.
Merci à vous. Merci et mes amitiés à Sabine. Merci.
Voilà.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75016, Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Comme prima, tu me donnes tant de joie que personne ne m'en donne comme toi. C'est ta bouche qui m'apporte ma joie de vivre, et ma chance c'est de vivre rien que pour toi. Que m'importe si tu m'aimes moins que moi, moi je t'aime comme on aime qu'une fois, et je reste prisonnière, prisonnière de tes bras. Comme prima, tu me donnes tant de joie. La notte, come allora magica scende, la luna splende, e tu sei qui. Mi sento un po' confusa, non so capire. Accarezzarti, le tue mani fra le mani stringere ancora, come prima tu me donnes chaque jour, come prima tu me donnes tant d'amour, que j'espère te le rendre quand heureuse dans
Merci, on avait envie de soleil lié à la météo, puis de soleil aussi pour amoindrir les effets sombres de l'actualité peut-être mondiale. Et donc merci à Benoît d'avoir choisi cette magnifique chanson de Dalida. Notre seconde invitée, il s'agit de Sabine de Villerocher, journaliste à Boulevard Voltaire. Bonjour Sabine de Villerocher.
Bonjour Clara, merci pour votre invitation.
C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur des thèmes que vous éditez notamment sur Boulevard Voltaire. Je pense que les éditeurs de Radio Courtoisie connaissent bien, mais je mentionne encore ce média courageux qui ressort des sujets qui ne sont pas forcément tous bien étudiés ou mis en valeur par les autres médias. Et si j'ai voulu vous recevoir aujourd'hui, c'est pour parler d'une grande enquête de Boulevard Voltaire que vous avez menée et qui s'appelle, enfin je donne le titre pour que les auditeurs de Radio Courtoisie la retrouvent justement sur Internet notamment. École hors contrat quand l'État abuse et persécute les familles. Alors Sabine de Villerocher, vous parlez carrément de persécution de famille. On est face à un scandale. Aujourd'hui en France, des parents seraient convoqués en gendarmerie pour avoir choisi une école. Alors est-ce réel? Est-ce que vous pouvez nous redonner un petit peu le contexte?
Oui, écoutez, c'est vraiment dans toute l'enquête que j'ai menée. En fait, j'ai mené une enquête auprès des écoles privées, auprès des écoles hors contrat. Et il y a des familles qui sont venues me trouver pour me raconter ce qui leur était arrivé. Et le témoignage parmi les familles que j'ai pu entendre, le témoignage le plus percutant a été celui de cette femme que j'appelle Cécile. C'est pas son vrai prénom, mais pour des raisons que vous allez comprendre par la suite, on lui a donné le prénom de Cécile. Cécile a 9 enfants, elle est mariée et son mari est en mission actuellement pour la France au Moyen-Orient. Donc avec les conditions difficiles que vous pouvez imaginer. Et elle a eu la surprise, et elle n'était pas la seule dans ce cas-là, mais elle a eu la surprise de voir se pointer les gendarmes à son domicile. C'était le mardi 17 mars. Alors, vous imaginez bien qu'à la place de Cécile, vous avez votre mari qui est à l'étranger, qui se bat dans des conditions particulièrement difficiles, et vous y arrivez les gendarmes. La pauvre Cécile s'est dit immédiatement, il est arrivé quelque chose à mon mari. Donc, elle est allée trouver les gendarmes. Elle leur a dit, vous venez pour mon mari, c'est ça. Et les gendarmes lui ont dit, mais non, pas du tout, madame. C'est pas pour votre mari qu'on est venu, on est venu parce que vous faites l'objet d'une enquête judiciaire. Enquête judiciaire pour non-scolarisation de votre enfant. Elle n'est pas la seule. Il y a un certain nombre de familles qui avaient eu le tort d'être parents d'élèves d'une petite école hors contrat qui a été fermée 4 mois, qui a rouvert depuis, et qui tous ont été convoqués et auditionnés par la gendarmerie de leur domicile dans le cadre de cette enquête diligentée par le procureur de la République. Alors, ses parents, il y a un autre père de famille qui nous a confié que lui aussi, quand il avait vu les gendarmes, étant donné qu'il avait des enfants répartis dans toute la France, il s'est dit immédiatement qu'il aurait été arrivé quelque chose. Ses parents qui ont vécu ce choc psychologique terrible et qui ont après dû se rendre à la gendarmerie, il se trouve que leurs enfants étaient tout à fait régulièrement inscrits à l'école, et c'était extrêmement facilement vérifiable par les autorités, le procureur de la République et l'académie. Parce qu'en fait, il existe un registre national de scolarisation des enfants. Donc, en fait, ils se disent victimes d'une injustice. Derrière tout ça, il y a des contrôles qui s'intensifient sur les hors-contrats, sur les écoles privé également de l'enseignement catholique, et ça va maintenant jusqu'à la visite des gendarmes au domicile des parents et les convocations de gendarmerie.
Merci. Alors ça, c'est l'objet qui est complètement incroyable de votre enquête. Pour si on veut balayer un peu plus large, comme on a un petit peu de temps, déjà pour reprendre pour nos amis auditeurs de Radio Courtoisie, qu'est-ce qu'une école hors contrat? On peut peut-être en redonner aussi une définition. Qu'est-ce que ça implique au niveau des subventions et combien d'élèves aujourd'hui sont concernés? Si vous avez un chiffre pour nous donner aussi un ordre de grandeur, combien y a-t-il d'écoles hors contrat en France?
Alors, il y a environ 7 000 établissements hors contrat en France. Il y a 125 000 élèves actuellement qui sont scolarisés dans leur contrat. Et c'est un modèle qui séduit beaucoup. D'abord parce que l'école publique est un naufrage, je ne vous ferai pas de dessin sur le niveau de l'enseignement, que ce sont des endroits où les élèves sont en sécurité, où ils apprennent librement. Et donc, ça, c'est un modèle qui a beaucoup de succès. Il y a eu encore une centaine d'écoles qui ont ouvert à la rentrée de septembre 2025. Ce sont des structures qui sont alternatives, qui sont dites alternatives, c'est-à-dire qu'elles ne dépendent pas de l'État, c'est-à-dire qu'elles n'ont aucune subvention de l'État et elles doivent se débrouiller pour survivre. Donc elles vivent des cotisations des parents et elles essayent de rechercher des dons, en fait, pour survivre.
Donc une explosion du nombre d'écoles hors contrat, ce qui est un succès qui peut en tout cas gêner quelque part l'éducation nationale.
Voilà, c'est un succès apparemment qui gêne l'éducation nationale, qui gêne, il faut pas se le cacher, les militants du laïcisme à tout prix et qui ne veulent pas parce que, en fait, dans les écoles hors contrat, ces petites écoles hors contrat, celles qui font majoritairement l'objet de persécutions, d'enquêtes abusives, dont on va parler après, sont généralement les écoles plutôt
Voilà,
catholiques.
parce qu'il faut dire aussi qu'il ne faut pas forcément dire école hors contrat, c'est des écoles catholiques. C'est une grande partie. Il y a aussi des écoles Montessori, peut-être des écoles coraniques. Enfin voilà, pour avoir un petit schéma de quoi elles sont composées, ces écoles.
Oh, il y a un peu de tout dans les écoles hors contrat. Il y a des méthodes alternatives dites Steiner que je connais pas très bien. Il y a des écoles dites démocratiques où les enfants décident eux-mêmes des horaires, de leur emploi du
D'accord.
temps, des matières qu'ils veulent. Voilà. Et puis il y a des écoles qui sont pas forcément catholiques, mais qui dispensent un enseignement, disons, conforme à la doctrine de l'Église, mais qui ont des méthodes, en tout cas pédagogiques, qui ont fait leurs preuves. Puisque généralement, elles ont de très bons niveaux scolaires. Il y a aussi des écoles coraniques qui représentent une toute petite part. Elles ne sont que 1% des écoles hors contrat. Il faut savoir que les musulmans, leur but, c'est de devenir des écoles privées. Pour une école hors contrat, quand vous fondez une école hors contrat, il faut 5 ans d'exercice pour devenir une école, pour passer sous contrat de l'État, ce qui est intéressant parce que vous avez accès aux subsides de l'État, vous êtes financé par l'État. Et on note quand même, a priori, chez les écoles, parmi les directeurs d'écoles musulmanes, cette volonté, en fait, de s'inscrire dans l'enseignement privé, de rentrer dans l'enseignement privé pour plus de respectabilité et vraisemblablement plus de financement, on imagine. Donc, en fait, le gros des écoles hors contrat, c'est vraiment des méthodes pédagogiques alternatives et celles qui sont particulièrement dans le viseur de l'État, ce sont celles qui ont une couleur catholique.
Voilà, ça c'est quelque chose que vous avez pu détecter, qui ne nous surprendra pas et qui ne surprendra pas les auditeurs de Radio Courtoisie. Mais je voulais en venir aussi à cette conclusion, mais après avoir balayé un petit peu tout ce qui pouvait composer le spectre des écoles hors contrat. Parce qu'on en parle comme d'un bloc, mais il y a plusieurs notions à l'intérieur. Donc vous, dans votre article, Sabine de Villerocher sur Bouval Voltaire, vous parlez de méthodes scandaleuses, bah, vous nous en avez décrite une. Enfin moi, j'ai une réflexion tout de suite qui me vient en tête quand je lis que des gendarmes débarquent comme ça dans une famille, qui plus est avec un papa militaire, bien sûr. On parle de simple contrôle administratif ou on parle carrément d'actes d'intimidation?
On peut parler d'actes d'intimidation, là c'est très clair. Enfin, en tout cas, c'est ce que les parents qui ont subi ces traitements dénoncent.
Mais c'est
D'ailleurs, ils ont
légal.
un. Ils ont. En fait, c'était une manière de les convoquer, la gendarmerie, la manière dont ça a été fait et contestable, puisque se rendre directement dans les familles sans prévenir, sans dire, sans envoyer un mail, sans téléphoner pour les convoquer à la gendarmerie, ça c'est contestable en soi. Ça n'est pas juridiquement contestable, c'est contestable. Mais surtout, en fait, ce qui étonne, c'est cette enquête judiciaire particulièrement qui a été déclenchée alors que il n'y avait pas motif. C'est-à-dire que les parents, après, ça s'est bien passé dans le cadre. À la gendarmerie, ça s'est bien passé. Avec des méthodes un petit peu différentes selon les uns et les autres. Il y a des parents qui ont quand même été soumis à la procédure de prise d'empreintes et de photographie. Pas tous. Il y a des gendarmes qui ont été très compréhensifs et qui ont un peu expliqué aux familles, entre guillemets, qu'ils ne savaient pas très bien que ça leur paraissait un petit peu des convocations injustifiées. Il y a des parents qui ont été auditionnés. L'un, les époux séparément, l'un sans l'autre, au cas où ils se seraient contredits. Tout ceci, finalement, a l'air de bien se conclure, puisque chacun a pu apporter la preuve que son enfant était régulièrement
Parce que
scolarisé.
c'est ce qu'on leur reprochait, hein, pour bien comprendre, excusez-moi, Samine de Villerocher.
Oui, en
En fait, le
fait.
but, c'était de. On leur reprochait de ne pas scolariser leurs enfants.
Voilà, on leur a reproché de ne pas scolariser leurs enfants, et l'enquête a donc été déclenchée par le procureur de la République. Il se trouve que ces enfants étaient scolarisés, que la preuve en a été apportée très vite, mais que les autorités auraient pu le savoir bien avant de déclencher toute cette procédure, puisque je vous dis, il y a un fichier qui s'appelle ONDE, qui est national, qui appartient à l'Académie, et l'Académie aurait très bien pu, d'un simple clic, vérifier que ces enfants étaient scolarisés avant de déclencher cette enquête judiciaire.
On sait que les
Donc,
tribunaux, enfin en tout cas que la police ou la gendarmerie, ne sont pas du tout débordés. Il n'y a rien d'autre à faire en France.
ben, c'est ce que les parents m'ont dit d'ailleurs. Ils m'ont dit, mais enfin, on ne comprend pas une débauche de tels
Voilà.
moyens pour une simple vérification administrative,
Qui
en
aurait pu
fait.
être fait, comme vous venez de nous le dire, par une simple consultation d'un site sur Internet. J'essaye de clarifier, hein, pour nos auditeurs qui, évidemment, ne sont pas forcément coutumiers de ce genre de pratique.
Voilà. Mais en fait, ce qui se trame derrière tout ça, c'est vraiment la mise sous tutelle de tout ce qui n'est pas école publique, de tout ce
Voilà.
qui n'appartient pas au public. Alors, pour vous tracer un tableau général, en fait, bon, si les petites écoles hors contrat, depuis toujours, hein, depuis la loi Gatel de 2018, sont soumises à des contrôles réguliers, ce qui peut... D'ailleurs, les directeurs d'école hors contrat ne contestent absolument pas le principe des inspections. Ils trouvent ça absolument normal. Et d'ailleurs, ils auraient attendu d'une manière générale, d'après ce qu'ils me disent, de la part des inspecteurs, des conseils pédagogiques pour améliorer les locaux, améliorer la manière dont ils enseignent. Et en fait, c'est pas du tout comme ça se passe. Les inspecteurs se comportent beaucoup plus en père fouettard. À fouiner un peu partout, voir comment ça se passe, comment sont les locaux, si les enfants ont une cour de récréation convenable. Ils ouvrent les cahiers, ils fouillent les cartables, ils interrogent les enfants à part. Enfin, il se passe des choses quand même absolument invraisemblables. Alors, ce qui s'est passé cette année, depuis le scandale de l'affaire Betarame, et là, je reviens sur les écoles privées. Il y a eu donc le scandale de l'affaire Betarame, cette école de Pau qui, il y a 20 ans, dans laquelle il y a 20 ans, il y a eu des abus, des actes de violence sur des élèves. Ce sont des faits qui datent d'il y a 20 ans. Le scandale Betarame, je ne sais pas si vous vous souvenez,
Alors,
ça date
juste un mot
un
pour replacer
peu.
dans le contexte à nos auditeurs, s'il vous plaît, Sabine, si vous pouviez nous en dire juste un mot.
Eh bien, en fait, le scandale Betarame a éclaté au printemps dernier de mémoire. Il se trouve qu'on avait un premier ministre qui était François Bayrou et parce que cette école se trouve à Pau, et que ce premier ministre, en fait, a eu des enfants à l'époque dans cette école. Donc, c'était aussi une manière pour déstabiliser le premier ministre de l'époque, pour dire qu'il y avait eu des scandales il y a 20 ans dans cette école. Scandales qui se sont tout à fait révélés vrais, hein. Et à la suite de ce scandale Betarame, Elisabeth Borne, qui était ministre de l'Éducation nationale, a décidé d'enquêtes massives sur les écoles de l'enseignement privé. Le soupçon général a été porté sur l'enseignement privé d'une manière générale. Il y aura 1 300 contrôles qui seront diligentés sur les écoles de l'enseignement privé d'ici juin de cette année. Donc, il y a eu des contrôles, il y en avait 850 à l'automne, et il y a eu des contrôles dans ces écoles qui se sont vues traiter comme les petites écoles hors contrat ont l'habitude d'être traitées, en fait. J'ai envie de dire, rien de neuf sous le soleil. Sauf que là, il s'agissait d'écoles privées. Alors, l'intérêt, j'ai envie de dire, de cette histoire, c'est que l'enseignement privé a une force de frappe qui est pas négligeable. Et donc, nous avons un nouveau secrétaire de l'enseignement privé qui s'appelle Guillaume Prévost, qui a réagi extrêmement virilement à ces abus qu'il a pu constater lors de ces inspections. Et donc, l'enseignement privé a établi une liste de tous les abus qui ont eu lieu au cours de ces inspections. Et c'était assez intéressant. Ils ont publié leur rapport. Alors, pour vous donner un exemple d'abus, vous aviez, par exemple, 15 ou 15 inspecteurs qui arrivent sans prévenir,
Ah oui,
qui
d'un seul coup
interrompent
comme ça, 15 inspecteurs, oui.
tout d'un coup pour regarder les cahiers, fouillent des cartables d'élèves, refus de décliner leur identité, prise de photos, ouverture d'armoire sans le demander. Vraiment,
Des
les
cow-boys.
enseignants et les responsables éducatifs ont témoigné en disant on avait vraiment le sentiment d'être soupçonné de vouloir cacher des choses, de ne pas donner la réalité. Vous avez eu à Amiens une religieuse qui a été mise à l'écart de toute activité la mettant en relation avec les élèves. Vous avez eu des reproches des inspecteurs à des écoles qu'ils soupçonnaient de discrimination envers des musulmanes, puisque dans une école catholique, on leur demandait de retirer leur foulard, ce qui est la règle pour tout l'enseignement en France. C'est-à-dire que les élèves, en principe, l'école est un sanctuaire et des élèves musulmanes ne doivent pas suivre les cours avec des foulards. Mais là, en l'occurrence, on était dans une école privée et on a reproché à une école privée catholique
D'appliquer la
de
loi.
demander aux élèves, voilà, d'appliquer la loi. Enfin bref, tout un tas d'abus qui ont été soigneusement compulsés,
Très bien.
notés, publiés dans un rapport. Le Guillaume Prévôt a été auditionné à l'Assemblée nationale et, si vous me passez l'expression, il a passé un gros coup de gueule en disant que c'était absolument scandaleux. Il a été entendu et l'État a un petit peu fait machine arrière au mois de janvier et a publié un document pour recadrer ses inspecteurs. Ça date du mois de janvier, donc j'ai interrogé l'enseignement catholique qui a salué la reprise de relations avec l'éducation nationale en disant, bon, bah, apparemment, ça va se tasser, tout va bien se passer, parce qu'en fait, ce qu'on leur reprochait pour l'essentiel dans ces inspections, c'était le caractère propre des établissements catholiques et la non-application des fameux programmes EVARS que vous connaissez, qui sont les programmes d'éducation à la vie affective et sexuelle. Donc, pour l'instant, peu de remontées, puisque ce recadrage de l'éducation nationale date du mois de janvier. Peu de remontées d'inspection dans le privé, dans les écoles privées, parce qu'on est en avril. C'est une affaire à suivre, voir si réellement les inspecteurs vont respecter les règles maintenant et ne pas outrepasser leurs droits dans les écoles privées. Parallèlement à ça, dans les écoles hors contrat, et pour ça j'ai interrogé la Fondation pour l'école, qui est une association qui soutient les structures du hors contrat, qui dispense des conseils hein, juridiques, techniques, et voilà, en la personne de Michel Valadier, qui est son directeur général. Il m'a expliqué que depuis cette affaire Beteram, et donc ce flot d'inspections dans les écoles privées, on note une recrudescence des inspections dans les écoles hors contrat, avec un changement de nature. Là, vous voyez, je vous ai décrit, surtout pour les écoles hors contrat, jusque-là, c'était surtout des contrôles qui portaient sur les aspects administratifs. Les locaux, un petit peu aussi sur le fond de l'enseignement. Mais disons qu'il me disait jusqu'à maintenant, jusqu'à ces derniers mois, il y avait un contrôle sur deux qui se terminait de manière satisfaisante. Voilà, c'était pas. Mais là, il me dit, il y a une inflation d'inspection sur les écoles hors contrat avec des questions qui tournent essentiellement autour du respect des valeurs de la République. Sous-entendu, la question est posée au directeur des écoles hors contrat, est-ce que vous respectez l'application des programmes EVARS? Il se trouve que le hors contrat échappe au programme EVARS dans le texte. Les programmes EVARS sont destinés à s'appliquer aux écoles publiques et aux écoles privées et non au hors contrat. Donc il y a vraiment un changement de nature. Derrière tout ça, il se trouve que au Sénat, il y a une commission qui est en train de plancher sur le financement du hors contrat. Vous savez, je sais, enfin, déjà, l'enseignement privé est dans le viseur, avec des députés LFI, comme le député Paul Vannier, par exemple, qui cherchent à contester les financements de l'État pour les écoles privées. Et pour les écoles hors contrat, on est en train d'essayer de les assécher financièrement. Et il y a une commission donc qui est diligentée par Sonia de la Provôté, qui est une sénatrice centriste, qui est en train d'interroger tous les responsables du hors contrat et ceux qui s'occupent de leur financement Pour l'intention derrière, effectivement, c'est de relever des irrégularités et surtout de mettre fin à un système de défiscalisation qui est assez complexe. Et donc, alors, ce qui est intéressant, c'est que ceux qui en veulent ou hors contrat se reposent sur les remontées des inspections, sur les dysfonctionnements qu'ils ont pu constater à l'occasion de ces inspections pour justifier, en fait, les facilités fiscales qui sont accordées à ces petites écoles hors contrat.
Parce qu'en fait, quand vous faites des dons pour ces écoles hors contrat qui n'ont aucun autre mode de fonctionnement, de financement, vous pouvez les défiscaliser classiquement, quoi, à hauteur de 66%, enfin comme tout don classique. C'est ça actuellement la règle.
Voilà, exactement. Comme toute association, il y a
Voilà, comme toute
énormément
association.
d'associations en France qui bénéficient de ces défiscalisations. Alors, il faut quand même avoir conscience que quand vous êtes parent dans le hors contrat, vous payez par vos impôts l'école publique et l'école privée, dans une certaine mesure, puisque vous participez à l'effort financier de tout le monde. Vous payez une deuxième fois, puisque vous payez vos scolarités qui sont relativement élevées, puisque ce sont des petites écoles qui survivent comme elles peuvent. Et puis, ces petites écoles, effectivement, font des appels aux dons pour le
C'est
reste.
comme Radio Courtoisie, qui ne vit que grâce à ses auditeurs.
Voilà, exactement. Et donc là, vous avez une offensive vraiment très marquée pour enquêter, poser des questions. Alors, il faut savoir que dans cette histoire de commission est particulièrement visé Édouard Sterrin et son académie Saint-Louis et le Fonds du bien commun. Et c'est surtout eux qui sont visés pour l'instant.
Ça, ce que vous nous décrivez, ça s'appelle plutôt une, enfin, en tout cas, ça a une forme, c'est une forme de chasse idéologique, je pense, hein, par rapport à ce que vous êtes en train de nous dire, donc de pression administrative. Est-ce qu'il y a eu des fermetures qui ont été liées à ces inspections? Est-ce qu'il y a des familles qui renoncent par peur, hein, de mettre leurs enfants dans des écoles privées hors contrat? En fait, on assiste presque à un débat qui est philosophique, à la liberté d'enseignement. C'est un principe fondamental en France. Hein. On pourrait dire qu'elle est menacée hein, quand on vous écoute. Et jusqu'où l'État peut-il aller?
Alors, il y a des fermetures administratives qui se font assez régulièrement. Alors, il y a peu de fermetures administratives, je vais vous dire. Il y a des fermetures administratives qui sont généralement temporelles. Je connais une petite école hors contrat qui a fermé 4 mois sur décision du préfet. Elles peuvent fermer du jour au lendemain, hein, ces écoles-là. Mais pour des questions généralement qui sont très administratives, des histoires de locaux qui sont pas conformes, des choses comme ça. Après, vous avez des écoles hors contrat qui ferment parce que les responsables des écoles hors contrat sont découragés par les normes administratives. J'ai eu encore très récemment le témoignage d'un responsable éducatif qui me disait, mais en fait, on est déjà étouffé financièrement par les normes qu'on nous impose. Il faut sans arrêt faire des travaux pour se mettre en conformité. Donc vous avez un découragement pour des problèmes administratifs et pour l'instant, il n'y a pas eu de fermeture pour des raisons d'enseignement sur le fond. Mais voilà, l'histoire n'est pas finie et l'étau se resserre.
Alors, on peut aussi revenir sur ce que je sais que vous êtes une juriste de formation, Sabine de Villerocher. Donc, la liberté d'enseignement, elle est protégée, hein, et ça, il faut le dire à nos auditeurs de Radio Courtoisie, par le Conseil constitutionnel. C'est une décision de 77, hein, et l'article L151.1 du Code de l'éducation. En fait, est-ce que l'État, en procédant à ces perquisitions, inquisitions, hein, persécutions, on choisira le terme selon ses envies, mais est-ce qu'il n'est pas en l'État de vider ce droit constitutionnel finalement de sa substance.
Oui, mais c'est aussi, là vous avez cité les textes, justement, c'est là-dessus qu'on peut se raccrocher, c'est-à-dire que c'est quand même un droit fondamental et
Voilà.
puis les parents sont quand même les premiers éducateurs de leurs enfants.
Ça, c'est vous qui le dites, c'est pas forcément, enfin bien sûr, et je partage complètement votre avis, mais si on vous écoute, enfin vous savez bien que de façon idéologique, la gauche ou tous ceux qui depuis 1905 font la chasse à l'éducation catholique ont soif de raccrocher l'éducation des enfants enfants justement à l'école, à l'enseignement, hein, plutôt qu'à ce qu'on pourrait trouver en famille. Et finalement, derrière tout ça, c'est idéologique. Il y a une ombre idéologique qui est très très forte de l'éducation, de la mainmise de l'éducation sur les futures générations, de l'éducation nationale. Hein.
Certes, mais j'ai envie de vous dire que cette idéologie, malgré elle, est toujours rattrapée par le réel. Alors, on va pouvoir pas. Je vais vous parler évidemment de ce qui se passe dans les écoles parisiennes, hein, les petites écoles parisiennes, le scandale du périscolaire. D'ailleurs, c'est quand même très, très, très intriguant de voir à quel point nos petites écoles hors contrat voilà. et les écoles de l'enseignement privé sont mises sous contrôle, sous tutelle,
sous pression.
Alors qu'elles sont régulièrement inspectées, que voilà, tout est fait pour que pas le moindre doute ne s'insinue sur les mœurs, sur l'enseignement, sur tout ce qu'on veut. Je vous rappelle qu'il y a quand même à Paris 78 animateurs qui sont suspendus actuellement.
Voilà, 78 animateurs du périscolaire sont suspendus pour voilà, des actes d'une extrême gravité, hein, c'est-à-dire des actes de violence sexuelle sur des tout petits enfants. Ce qui est proprement scandaleux. Donc, en fait, l'État contrôle là où il a envie de contrôler. Donc, derrière, il y a une idéologie.
Sans compter que ces violences sur les tout petits enfants datent de 2015 et que rien n'a été fait depuis 2015. Voilà, donc c'est là que je vous dis que l'idéologie est parfois rattrapée par le réel. Je peux aussi vous citer le succès de l'enseignement privé à Paris, où près d'un collégien sur dix, sur deux, pardon, d'après les prédictions d'un institut qui a planché sur le sujet, sera scolarisé dans le privé à Paris. Les parents plébiscitent l'enseignement privé parce que c'est l'endroit où ils trouvent plus de sécurité, un meilleur niveau. Vous voyez, toute cette idéologie, malheureusement, est rattrapée par le réel.
Et alors, on peut aussi s'interroger sur la loi qui visait hein, l'islamisme radical, dite séparatiste. Les enquêtes montrent, en fait, au départ, je pense que les législateurs ont souhaité cette loi, c'était pour s'opposer à des écoles qui coraniques qui enseignerait un islam radical. Aujourd'hui, est-ce que cette loi finalement se retourne pas, en tout cas vous le disiez, hein, contre les écoles catholiques plutôt que finalement contre le ferment d'un islam radical qui pourrait voir le jour dans ce genre d'école? Est-ce que c'est pas finalement l'inverse que ce qu'on aurait souhaité en voyant naître cette loi sur le séparatisme?
Ben absolument, c'est absolument ce qui s'est passé. Donc, je vous rappelle que de toute façon, dans les écoles hors contrat, les écoles musulmanes ne représentent que 1%. En fait, vous faites allusion donc à la loi de 2021 sur le séparatisme qui recommandait un plus grand nombre d'inspections, justement, au niveau des écoles, notamment hein, aussi dans les familles, pour chasser le séparatisme islamique et qui s'est effectivement complètement retourné contre les autres écoles hors contrat. Et en fait, très significatif à cet égard, parce que j'ai écouté, je reviens sur cette fameuse commission du Sénat qui planche sur les facilités financières dont peuvent bénéficier les petites écoles hors contrat. Vous aviez un certain Robert Merle, qui est un sociologue et qui veut vraiment la peau du hors contrat, et qui basait tout son rapport, justement, sur les remontées d'inspection qui avaient été diligentées dans leur contrat. Et alors, il cite tous les dysfonctionnements qui ont été notés. Il a particulièrement dans le viseur les écoles catholiques. Et il dit, quant aux écoles musulmanes, on a très peu de remontées, on n'a quasiment pas de chiffres.
Ouais, bah donc, du coup, on va rien faire.
On n'a rien.
Oh, bah oui.
Et du coup, voilà, c'est hors sujet.
Voilà. Mais là, extraordinaire.
Il est carte.
Voilà. C'est extraordinaire ce que vous me racontez. Ouais. On ne se donne peut-être pas forcément non plus les moyens. Mais, donc, on a bien compris qu'en fait, il y avait une espèce d'arbitraire technique. Et je me mets à la place des personnes qui veulent créer des écoles hors contrat. Donc, on va désormais pouvoir fermer. Je pense que c'est déjà le cas, malheureusement, exceptionnellement pour certaines, des écoles pour des raisons matérielles, largeur de porte, nombre de lavabos, etc. Faute de pouvoir les attaquer directement hein, sur le plan pédagogique, en fait. Et puis, puis l'asphyxie financière aussi, puisque ces écoles ne reçoivent aucune aide publique, en multipliant par exemple les exigences de mise aux normes et puis les frais d'avocat hein, qu'ils font derrière. En fait, c'est, l'État va chercher à les ruiner, en fait, puisqu'il ne peut pas s'attaquer à autre chose, si on veut respecter la liberté d'enseignement. En fait, je pense qu'au niveau de la résistance qui se met en place, on voit des collectifs de parents et des réseaux d'écoles hein, s'organiser. Est-ce que c'est pas un peu le début d'une guerre scolaire? Enfin, quand je dis début, on se souvient hein, qu'elle date un peu, notamment de Mitterrand qui voulait déjà supprimer les écoles privées. Mais le début d'une guerre scolaire juridique et médiatique, en fait.
Oui, absolument. C'est le début d'une guerre scolaire. C'est la suite d'une guerre scolaire. Mais il y a quand même des avocats qui se battent. Je pourrais vous citer une petite école qui s'est battue, l'école Pauline Jaricot dans l'Ain, où la directrice n'a pas hésité. Il y avait une fermeture, elle était l'objet d'une fermeture administrative. Elle a fait intervenir des avocats, elle s'est battue, elle a été jusqu'au Conseil d'État. Et le Conseil d'État lui a reconnu que la fermeture administrative était illégitime et a cassé la fermeture administrative. Bon, depuis, cette petite école, ces derniers jours, a été à nouveau inspectée. Cette petite école qui a 17 élèves, 3 enfants handicapés, a été inspectée 4 fois en 18 mois de temps. Donc
quand on sait ce que l'école publique réserve aux enfants handicapés comme soins et comme aide, c'est-à-dire proche de pas grand-chose quand même, on pourrait même se féliciter qu'il y ait des écoles hors contrat qui prennent la relève.
Absolument. Mais c'est là où je vous dis que la réalité rattrape l'idéologie. Mmh.
Si vous aviez, pour finir, Sabine de Villerocher, le ministre de l'Éducation face à vous, on va rêver un peu, quelle serait la première mesure urgente pour établir un climat de confiance avec les familles? Rapidement.
Pour les familles du
hors-contrat, qu'est-ce que vous lui diriez au ministre de l'Éducation nationale?
Je lui dirais, cessez de casser les systèmes qui fonctionnent. Les systèmes qui font des bons élèves avec des niveaux qui leur permettent d'être des acteurs dans la société de demain, avec des diplômes, puisque ce sont des élèves qui réussissent. Cessez de persécuter les parents. Et donner leur chance à cesser de casser ce qui marche et préoccupez-vous plus de ce qui ne marche pas, des écoles qui ont un mauvais fonctionnement, qui cachent des scandales et qui ne favorisent pas les bons élèves, comme l'école du public.
J'ai une réaction d'un auditeur, je lui laisse, hein, c'est un auditeur qui dit « N'y aurait-il pas un lobby LGBT à Bercy au ministère de l'Éducation nationale, le tout protégé par l'Élysée pour faire l'écho avec notre premier invité Marc Hainaut qui nous a parlé de la Macronie. Eh bien écoutez Sabine de Villerocher, merci beaucoup. C'était un sujet qui anime beaucoup nos auditeurs de Radio Courtoisie. On vous retrouve sur Boulevard Voltaire si on veut également relire votre enquête qui était intéressante. Et puis j'espère une suite plus heureuse pour ces petites écoles qui se battent pour l'éducation de nos enfants et leur développement intellectuel et puis d'en faire de belles personnes. Merci à vous Sabine de Villerocher, merci de votre temps.
Merci beaucoup Clara.
Merci à vous auditeurs de Radio Courtoisie et du Libre Journal de la Liberté de Penser. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans 4 semaines. À très bientôt.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de la Liberté de Penser dirigé par Clara Schneider, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mercredi 8 avril 2026 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix front de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.